Alors, une partie de... Merci encore. Une partie de notre après-midi était consacrée aux langues avec l'hébreu et le grec. Alors maintenant, on change complètement de sujet. Hein, donc, il faut vraiment sortir de nos considérations philologiques, linguistiques, d'édition. Et je pense qu'on va voir des très belles choses d'ailleurs, enfin, des documents vraiment extrêmement intéressants. Je remercie beaucoup Agnès Sandras de nous rejoindre pour parler de l'image de la bibliothèque, pour parler et montrer en traitant du sujet l'image de la Bibliothèque nationale et du Collège de France dans la presse sous le Second Empire. Agnès Sandras est conservateur à la Bibliothèque nationale de France au département philosophie, histoire, société. Elle est en charge d'un empire, c'est toute la collection Histoire de France qui, chez nous, a une importance toute particulière. Elle est très fondatrice aussi, est décrite dans un catalogue, au 19e, dans un catalogue absolument remarquable, le catalogue de la lettre L. Je vous laisse la parole.
Je vous remercie. Donc, je remercie, comme mes camarades, le Collège de France qui a organisé cette superbe journée. Je remercie, bien entendu, mes collègues de la BNF qui ont également travaillé à cette journée. Et je voulais remercier les intervenants et les intervenantes qui, tout au long de la journée, m'ont un petit peu mâché le travail. Et c'est important parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter et à vous présenter. Et ça va mieux si ça a déjà été explicité auparavant, vous allez le voir, puisque je vais vous emmener dans une cavalcade à travers la presse, et notamment la presse satirique, qui, quoi qu'on en pense, n'est pas si facile à décrypter et demande au contraire une certaine érudition. Et je pense qu'au terme de cette journée, vous avez cette érudition nécessaire pour comprendre ce que je vais vous montrer et vous expliquer. Alors, je voulais aussi revenir sur l'importance de tout ce que nous numérisons dans diverses institutions et bien entendu à la Bibliothèque nationale de France, parce que ce genre de recherche, évidemment, n'est pas possible sans que de nombreux documents soient numérisés. Et j'ai utilisé donc pour aujourd'hui à la fois Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, et la bibliothèque de son partenaire RetroNews, parce que vous allez le voir, les modes de recherche sont différents, donc les résultats sont complémentaires. Donc, je me permets de vous asséner quelques chiffres en fin de journée. Je sais que c'est pénible, ça va aller très vite, je vous rassure. Après, on va partir dans des images et ça sera beaucoup plus distrayant. Alors, quelques ordres de grandeur. Si on cherche dans Gallica, Collège de France, et qu'on rétrécit cette recherche à la presse, entre 1852 et 1870, on a 716 documents qui mentionnent donc le Collège de France, bien entre guillemets. Et regardez cette égalité merveilleuse, la Bibliothèque impériale apparaît dans 712 documents de presse entre 1852 et 1870, nous voilà tous rassurés. En RetroNews, en revanche, c'est un peu différent parce que RetroNews compte les occurrences. Alors, Collège de France, entre guillemets, apparaît 5630 fois, et la Bibliothèque impériale, je m'en excuse, 7812 fois. Alors, on peut faire dans RetroNews des graphiques qui permettent de regarder combien de fois apparaissent des expressions. Donc, je me suis amusée à faire apparaître l'expression Bibliothèque impériale et Collège de France entre 1852 et 1870. Vous voyez que le Collège de France dépasse largement la Bibliothèque impériale, si on regarde entre 1852 et 1870. Ce sont des chiffres qu'il faut manier avec précaution. Là, j'ai agité à la fois le Collège impérial, le Collège de France, la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque impériale. Vous voyez que certes, il y a des pics qui apparaissent et qui, grâce à RetroNews, sont décodables, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur les sommets et ça correspond aux documents en question, donc on peut aller voir ce qui se passe et pourquoi on a toutes ces occurrences. Mais vous voyez qu'il y a des choses singulières, comme par exemple la Bibliothèque, vous le voyez, nationale, entre 1852 et 1850, ce qui n'est pas tout à fait normal. Je vous rappelle au passage qu'en 1852, on a changé l'inscription qui surmontait le portail de la bibliothèque de la rue de Richelieu. La bibliothèque s'appellera désormais Bibliothèque impériale. Les journaux restent très discrets là-dessus d'ailleurs, je n'ai trouvé que deux mentions de cette inscription modifiée. Et alors donc la question, par exemple, pourquoi ce biais méthodologique? Pourquoi trouve-t-on la Bibliothèque nationale? Eh bien là, j'ai fait ce que je vous ai décrit tout à l'heure. J'ai été chercher dans les documents en 1865, où on voyait ce pic sur la Bibliothèque nationale. C'est tout simplement parce que nous avons de nombreuses publicités pour une collection populaire très intéressante qui s'intitule la Bibliothèque nationale. Donc comme quoi, il faut être extrêmement prudent quand même. Je le dis, je le répète aux jeunes chercheurs, attention quand vous utilisez nos bibliothèques numériques, parfois les résultats peuvent être faussés. Les deux institutions peuvent être bien entendu évoquées dans les mêmes documents, donc j'ai bidouillé, je dois le dire. Par exemple, j'ai cherché tous les mots Bibliothèque impériale Collège France dans Retro News en mettant l'expression Bibliothèque impériale, et j'ai fait la même chose ensuite avec le Collège de France pour trouver les évocations communes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on peut trier par titre de presse et on voit qu'entre 1850 et 1870, le premier titre de presse qui sort, et ça ne vous étonnera pas, c'est la Gazette nationale ou le Moniteur universel. C'est tout à fait normal puisqu'il donne évidemment tous les textes qui viennent de sortir, les textes officiels. Et vous avez le Journal des débats politiques et littéraires qui, lui, est très offensif, qui discute évidemment les décisions prises. Et c'est pour ça qu'on va le trouver également dans un des premiers journaux évoquant la Bibliothèque impériale et le Collège de France. Dans cet ensemble, nous avons une représentation très importante de la presse savante. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'il est évident que ça vaudrait une communication à soi seul. Et en particulier, ce qui me semblerait très intéressant, c'est de faire le relais entre la presse savante et la presse généraliste. Comment on passe des leçons, par exemple, des professeurs du Collège de France qui sont souvent retranscrites à ce qu'en dit la presse généraliste. Donc ça, ce serait vraiment un sujet à part. Mais là, ça m'amusait parce qu'on a quelqu'un qu'on a cité ce matin, vous voyez, hein, Charles Lenormand, conservateur du département des médailles à la Bibliothèque impériale et professeur d'histoire et d'archéologie au Collège de France. Je passe donc à la presse généraliste. J'abandonne la presse savante. Que trouve-t-on le plus souvent à propos des deux institutions ensemble ? Il s'agit de nouvelles factuelles, des personnes qui ont simultanément ou successivement des fonctions dans les deux établissements, on en a beaucoup parlé aujourd'hui et je viens de le redire, des dispositions officielles comme le budget alloué aux différentes institutions, dispositions qui sont la plupart du temps données sans commentaire, nous sommes sous le régime impérial, je vais en reparler, et plus fréquemment l'annonce des cours, puisque les cours du Collège de France et les cours de la Bibliothèque impériale avaient à peu près le même calendrier, commençaient souvent le même jour, donc on donnait dans les journaux en même temps l'annonce des cours, de la reprise des cours du Collège impérial de France et de la Bibliothèque impériale. Alors j'ai connu une grande joie, bien évidemment, puisqu'on peut trier aussi par pertinence des textes dans Retro News et dans Gallica, en trouvant un article dans Le Figaro qui s'intitulait « Le Collège de France et la Bibliothèque impériale ». Je me suis dit « c'est une merveille, voilà, je vais avoir une comparaison entre les deux institutions ». Et j'avoue que j'ai été au tout début de ma recherche, j'ai lu et relis l'article pour essayer de le comprendre, pour comprendre pourquoi dans le titre figurait la Bibliothèque impériale. Alors nous avons ici donc une présentation du Collège de France, ça commence comme ceci. Le Collège de France représente à nos yeux le romantisme dans l'enseignement, c'est le rival inquiet et remuant de la vieille et immobile université. Il eut pour fondateur François Ier, un roi qui aimait les lettres et la gloire délicate qu'elles procurent. Un de ces privilégiés de la fortune et du génie qui ont dans l'âme une étincelle de ce feu qui passa à travers les âges, de Périclès à Auguste et d'Auguste au Médicis. François Ier établit le Collège de France, on l'appelait Collège Royal, pour qu'on y cultivât cet ensemble d'études, de connaissances vives et d'illustres doctrines que la Renaissance, passant enfin les mots, venait de nous apporter en les rajeunissant. Ce fut une protestation vivante de la Grèce retrouvée contre la Sorbonne, immobilisée dans le faux latin du Moyen-Âge. Il jeta au feu les formules usées de la scolastique et s'élança vers l'avenir libre. Cette liberté, il la garda toujours. Et ses professeurs ont conservé, sous tous les régimes, assez d'indépendance et non moins de moustaches. C'est au Collège de France que Michelet et Edgar Quinet haranguaient la jeunesse pendant les jours troublés du règne de Louis-Philippe, dans la même chaire où Delisle Andrieux charmait jadis leurs paisibles auditeurs. Aujourd'hui, tout cet éclat s'est évanoui et toute cette gloire s'est éteinte. Le Collège de France ne jette plus qu'un rayon pâle dont la lueur ne franchit pas le périmètre du quartier latin. Sa dernière renommée littéraire fut, deux points, Sainte-Beuve. Et on commence sur Sainte-Beuve avec la notation suivante. Monsieur Sainte-Beuve est titulaire d'une chaire d'éloquence latine au Collège de France. Il n'a pu s'y asseoir, qu'une seule fois. Les étudiants nés malins ont rembourré son siège avec des épines et des noyaux de pêche. Etc, etc. Et on va avoir des portraits, et je vous demande de bien regarder l'ordre de ces portraits, parce que ce ne sont pas les professeurs auxquels on s'attend. On commence par Sainte-Beuve, qui donc n'a pas enseigné. On continue par Coste, dont on a parlé tout à l'heure, et vous allez comprendre. Et il faut continuer comme ceci avec différents personnages. Et une fois que j'ai eu terminé la lecture, je me suis dit, mais de Bibliothèque impériale, point. Sauf que sont évoqués certains savants qui travaillent à la fois à la Bibliothèque impériale et au Collège de France. Voilà. Et donc, il n'est point question de la bibliothèque impériale, si ce n'est pour des érudits, des initiés qui connaissent le fonctionnement de la bibliothèque et du collège. Ainsi, par exemple, est cité Charles-Ernest Belay, et vous avez dans le portrait de M. Belay, il succéda dans la chaire d'archéologie grecque au savant mais peu éloquent Raoul Rochette. Donc, on a une allusion à la bibliothèque impériale, mais c'est vraiment extrêmement allusif. Nous avons aussi des dispositions communes ou des événements qui concernent les deux institutions, qui trouvent un écho dans la presse, comme en 1858, après le rapport et le décret portant sur la bibliothèque. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus, puisque Marie en a parlé. Vous avez ici, par exemple, dans le journal des débats politiques et littéraires, tout un article qui loue les modifications apportées, mais qui, après cette patte toute gentille, va donner une énorme gifle en disant « Il y a deux points qui nous paraissent moins dignes d'approbation que les autres. Le premier et le moins important, c'est l'interdiction absolue du cumul d'un autre emploi avec ceux de la bibliothèque. Le second, c'est la révolution qui change le caractère de cet établissement et qui lui enlève le gouvernement de soi-même pour y introduire le système consultatif. » Alors, la presse, évidemment, a du mal à dire ce qu'elle pense, mais elle aime bien le faire par citation à l'époque. Parce que si on cite un autre journal, normalement, on est exempt de poursuite. Donc, c'est ce que va faire Émile de la Bédolière dans Le Siècle, le 28 juillet 1858. Il reprend un exemple. Un savant orientaliste professe au Collège de France. Est-ce une raison pour qu'il ne puisse mettre son érudition au service des visiteurs du département des manuscrits ? Nous pensons pour notre part qu'il vaut mieux utiliser deux savants qu'un seul, mais nous partageons les regrets du journal des débats qui voit avec peine qu'on enlève à la bibliothèque le gouvernement de soi-même. Ces paroles ne sont-elles pas empreintes d'une sorte de touchante mélancolie ? Alors ça, c'est là aussi le journaliste qui se protège, puisqu'en réalité, la citation est la suivante, je ne vous la lis pas en entier. « C'est un des problèmes des sociétés démocratiques, comme le prince Napoléon l'a sagement fait entendre, que de conserver au sein de l'égalité absolue et sous la redoutable unité du pouvoir cet esprit d'initiative et d'indépendance personnelle qui fait après tout au moins autant que l'esprit de discipline. » Donc vous voyez, on est vraiment en abîme, puisqu'on utilise une citation d'un autre journal, lequel journal utilise une citation de Napoléon III, mais évidemment pour critiquer et non pas pour citer Napoléon III dans le texte. Vous avez une question qui va agiter et particulièrement diviser la presse en juin 1864, qui concerne les deux institutions. C'est la fameuse question Renan. Alors, on a beaucoup parlé de Renan. Je vous ai donné ici deux exemples d'articles. Vous avez ici, dans la presse du 13 juin, on dit à l'intérieur, la grosse question de la semaine a été celle que les journaux ont nommée la question Renan. Et vous avez la Gazette du 16 juin qui cite différents journaux qui ont parlé de la question Renan, comme Le Pays, Le Siècle, etc. Alors je rappelle rapidement les événements parce qu'on les a évoqués, mais peut-être pas dans l'ordre. Donc je rappelle que Renan était attaché au départ au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale. Il est nommé titulaire par décret en janvier 1862 de la chaire de langue hébraïque, chaldaïque et syriaque au Collège de France. Il est suspendu après sa première leçon en février par le ministre, puisqu'il a entre autres évoqué Jésus comme un homme incomparable, donc ça fait scandale chez les catholiques et notamment chez les ultramontains. En mars 1862, Renan, qui ne veut pas lâcher l'affaire, publie une lettre ouverte à ses collègues. Il occupe son temps en publiant la vie de Jésus, ce qui n'arrange pas évidemment son dossier auprès des catholiques et de son ministre. Donc en juin 1864, en même temps qu'il rapporte la nomination de M. Renan à la bibliothèque impériale, le ministre le révoque cette fois-ci, puisque les textes le permettent, on l'a vu tout à l'heure, de ses fonctions au Collège de France. Renan s'obstine, il refuse, il publie une lettre de justification dans les débats, et le 11 juin, il reçoit un arrêté de révocation sans traitement signé Napoléon III. Qu'importe, Renan continue. Le 12 juin, il publie dans les débats un appel à l'opinion. Alors ça va beaucoup agiter la presse, il va y avoir beaucoup d'articles. Et puis, comme dans tous les débats de presse, ça va cesser évidemment avec l'été et on va oublier Renan. Renan, quant à lui, je vous rassure, retrouve, et on en a parlé, sa chaire par un décret du gouvernement provisoire en 1870. Je voulais vous montrer une caricature qui est très importante, qui est parue dans un journal que vous ne connaissez peut-être pas, un petit journal qui s'appelle Le Bouffon, le 20 octobre 1867, et qui va me servir de transition, puisque vous voyez ici Renan sur la pile de ses ouvrages, qui, dans les caricatures d'écrivains, est un signe. Lorsque les caricaturistes mettent les écrivains sur la pile d'ouvrages, que ce soit Hugo, Zola, etc., c'est la consécration littéraire. Mais vous voyez que Renan est déguisé dans une sorte d'animal démoniaque, à la fois chauve-souris, à la fois rat, et surtout, il est en tenue de lutteur, hein, d'où le petit maillot, vous le voyez, il n'est pas du tout habillé, hein, il est en petit maillot parce qu'il a été obligé de s'affronter physiquement, pratiquement, à ses adversaires, lesquels il a réussi pratiquement à écraser quand même, hein, c'est ce que le caricaturiste pense, puisque vous voyez que les petites silhouettes noires, ce sont les silhouettes, bien entendu, des ultramontains écrasés par la littérature de Renan. Ce qui me permet de faire le pont avec ce dont je veux vous parler aujourd'hui, j'espère que j'en ai le temps, oui. Donc la presse satirique, de manière générale, et le Collège de France, mais aussi la presse satirique et la bibliothèque impériale. Alors, je vous rappelle qu'à cette époque, ce qui est très important à savoir, c'est que la presse généraliste et la presse satirique sont corsetées par la censure. Les textes sont vérifiés, sont relus, annotés au crayon rouge, bien entendu. Les dessins, quant à eux, ont une censure préalable, mais nous avons un tournant avec l'Empire libéral dont nous avons parlé tout à l'heure, en 1867. D'où la naissance de petites feuilles satiriques, comme le bouffon que j'ai utilisé, qui vont, elles, pouvoir se permettre de faire des dessins un peu plus osés. C'est l'époque, si vous le connaissez peut-être, du fameux melon de Gilles, hein, ce melon qui représentait, bien entendu, une offense à l'empereur. Alors, une partie de la presse généraliste et surtout la presse satirique essaie de dire de manière allusive jusqu'en 1867, puis de manière beaucoup plus offensive, d'une part, me semble-t-il, et on en parlait tout à l'heure, que le Collège de France a perdu en liberté, et que d'autre part, la Bibliothèque impériale a un fonctionnement beaucoup moins souple qu'auparavant. Dans cette émulation, dans la presse satirique, vous avez le rôle du charivari. Le charivari, par tradition, depuis le début du XIXe siècle, enfin depuis sa parution dans les années 1830, se faisait une joie de critiquer le Collège de France et la Bibliothèque impériale. C'était vraiment un de ses sujets de prédilection. Et c'est intéressant parce que ça montre, d'une part, un attachement à ces institutions, bien entendu, on peut plaisanter, mais on est attaché à l'institution qu'on brocarde. Et d'autre part, ces articles sont suffisamment pointus pour qu'on comprenne que les journalistes ou les dessinateurs fréquentent ces institutions. Ils n'en parlent pas au hasard, ils les fréquentent vraiment, ils vont dans le détail. Donc, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, on voit que ces caricaturistes fréquentent les institutions dont ils se moquent. Cette tradition de blague autour du Collège de France et de la bibliothèque dans le charivari va trouver un moment tout particulier parce que le charivari veut marquer le coup pendant qu'il en est encore temps, en mars 1851, on en a parlé tout à l'heure, lorsque Michelet est révoqué. Donc vous avez ici une caricature qui montre le révérend père capucin Goranflot se chargeant de professer au Collège de France un cours d'histoire en remplacement de M. Michelet. Alors, ce qui est amusant avec cette caricature, c'est que je l'ai trouvée parfois commentée, notamment sur Internet, avec une erreur monumentale, parce que de père Goranflot, il n'y a jamais eu. Il n'y a pas eu de père Goranflot qui ait une charge au Collège de France. C'est tout simplement un personnage de Dumas. Donc ce capucin Goranflot, on le trouve dans différents romans de Dumas. Il est replé et comme il est là, voilà, c'est un personnage qui aime bien la vie. Et donc vous voyez, on imagine, hein, Daumier imagine comment on pourrait remplacer donc Michelet par ce capucin. Bon, sous-entendu évidemment, hein, on n'a plus une chaire d'histoire, mais on a une chaire religieuse, hein, d'ordre moral. Et vous voyez que évidemment, on n'a plus le succès de Michelet, mais on a à l'inverse un Collège de France désormais désert, d'autant plus qu'un des deux personnages est la personne chargée de surveiller l'amphithéâtre. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un seul auditeur face à ce remplaçant de Michelet. Avec les dispositions de la censure, le charivari va se faire plus discret à partir de 1852 parce qu'il y risque tout simplement le sort de son journal et l'emprisonnement pour les caricaturistes. Donc par conséquent, ça va devenir très très allusif. Par exemple, il va orchestrer un véritable charivari autour du naturaliste Victor Coste, et c'est pour ça que j'étais très contente qu'on l'évoque tout à l'heure, et de ses essais en embryologie appliqués au saumon. Donc on va trouver une foule d'articles sur la piscine du Collège de France, donc l'aquarium du Collège de France, les poissons de Monsieur Coste, etc. etc. Alors pourquoi est-ce que c'est allusif? D'une part, c'est allusif parce que c'est encouragé par Napoléon III et son épouse, qui sont venus en grande pompe venir visiter ce fameux aquarium. D'autre part, c'est une allusion, et on en parlait tout à l'heure, et j'étais contente aussi pour ça, c'est une allusion finalement à ces nouvelles disciplines qu'on crée. Et là, il y a une sorte de réticence devant le fait qu'on s'occupe de poissons au Collège de France, et il y a une réticence aussi qu'on s'occupe de l'embryologie, et donc de la mutation possible, hein, du vivant des animaux. Je vous renvoie à un article que j'ai écrit sur le charivari en 1856, où j'explique comment on s'intéresse aux animaux à cette période-là. Donc voici le genre de caricature, de dessin qu'on peut avoir, et vous voyez que ça SM, hein, ce n'est pas que le charivari, vous en trouvez par exemple dans le journal Pour Rire. Vous avez ici M. Coste, dit le père des poissons, parviendra à élever dans des cuvettes au Collège de France quantité d'individus de cette race de dauphins dont s'honorait le sport de l'Antiquité. À l'aide de ces précieux animaux, il sera composé un régiment de cavalerie marine dont M. Coste sera nommé colonel. Et vous voyez bien entendu que c'est là toute la promotion de M. Coste qui est évidemment vue de manière allusive, particulièrement de la part du régime impérial. Donc on a d'autres caricatures dans le journal amusant. Par exemple, ici, M. Coste se fait faire des réclames par les saumonaux enfoncer le phoque. Et vous avez bien le panneau Collège de France. Vous avez à droite l'art d'élever les saumonaux et de s'en faire 3000 réclames de rente dans les journaux amis du Collège de France. Monsieur Coste ne s'attend-il pas un de ces jours à être dépassé? Vous voyez que les saumonaux à la transformation de travail sur l'humain nous donnent des saumonaux qui savent jouer de la musique. Et enfin, nous sommes devant le Collège de France, toujours des réclames à Monsieur Coste. Qu'est-ce que c'est que Monsieur Coste? Monsieur Coste, c'est comme qui dirait le Courbet de la pisciculture, sauf qu'il n'y a pas eu de Rémy peintre avant Monsieur Courbet. Allusion également à Sainte-Beuve dans la presse charivarique, au souci de Sainte-Beuve. On s'amuse à citer Sainte-Beuve qui aimait la jeunesse. Et dessous, vous voyez, sous cette citation de Sainte-Beuve, on met « Avis confidentiel, monsieur de Sainte-Beuve ayant été sifflé au Collège de France sous l'œil de deux gardes municipaux à cheval, nous nous abstiendrons de tout commentaire ». Et dans le même numéro, on a encore une autre remarque. Causerie du lundi, donc vous voyez la référence évidemment à la littérature de Sainte-Beuve. Monsieur de Sainte-Beuve, mal protégé par les gardes municipaux à cheval chargés d'empêcher la profanation du sanctuaire et au besoin de l'applaudir, s'est décidé à priver de ses lumières la jeunesse intelligente des écoles. Citation. Il paraîtrait que ses auditeurs sifflaient avec un ensemble si harmonieux qu'on a cru devoir en mettre quelques-uns en cage. Et vous voyez aussi là toujours ce système allusif qui ne dit pas vraiment les choses de manière à ce que ça puisse passer. Une dernière chose, ce qu'on trouve de manière récurrente dans cette presse satirique à propos du Collège de France, c'est bien entendu les fameuses leçons. Alors, je vous en ai choisi une qui est un petit peu postérieure, mais parce qu'elle résume formidablement bien tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu voir. Vous avez ici, donc, en mai 1877, au Collège de France, un orateur avec, je ne sais pas si vous pouvez lire la légende, « Tiens tout ce qu'on ignore généralement, langage hébraïque, cordaïque, syriaque, tartare, mandchou, évangile bouddhique, philosophie morale et autres, etc., etc. Le tout public, gratuit et pas obligatoire. » Donc vous voyez, il y a à la fois la référence à ces langues qu'on va brocarder dans le charivari constamment. Le charivari va s'amuser à décrire des leçons où il n'y a qu'une personne, où il y a juste un monsieur de 80 ans qui n'y comprend rien, où il y a un monsieur qui reste sagement et le professeur lui dit encore 5 minutes et le monsieur dit oui, puis ça recommence encore. Et à la fin, le professeur s'aperçoit que c'est juste son cocher qui l'a pris à l'heure. Hein, donc ce n'était pas son auditeur. Voilà. Bon. Donc on a comme ça foultitude hein, de citations sur les différentes langues, etc., et ce qui se passe au Collège de France. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une description des auditeurs. Et là, moi, je l'ai choisi parce que je l'aime particulièrement. Sachez quand même, mais je pense que vous le savez, que le Collège de France était ouvert à un public féminin, de même que la Bibliothèque impériale, alors que la Sorbonne n'acceptait pas les femmes comme auditrices. Donc c'est quelque chose qui va venir aussi de manière récurrente, mais de manière très positive pour les journaux, qui apprécient donc ici, comme ils le racontent dans l'éclipse, les auditeuses. Donc vous avez les auditrices, alors tantôt décrites comme des bas-bleus bien entendu, parfois décrites comme des fans avant l'heure des professeurs du Collège de France, donc qui viennent parce qu'elles admirent le physique de tel orateur, elles aiment bien ses citations, etc. Mais vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très important autour de ce public, et vous avez en bas à droite effectivement une femme bas bleu, et puis ces auditeurs qu'on décrit dans toute la littérature, allant d'un collège à la Sorbonne, de la Sorbonne à la bibliothèque, qui n'ont donc aucune occupation, si ce n'est d'aller se chauffer, comme on l'a rappelé tout à l'heure, dans les bibliothèques ou dans les cours. Sainte-Beuve, on le retrouve bien entendu dans le Bouffon, quand le Bouffon peut se libérer en mai 1867, hein, vous voyez, on peut en dire un petit peu plus. Alors vous voyez Sainte-Beuve ici, avec à la fois une toge, l'habit d'académicien, il repose sur toutes les institutions auxquelles il collabore. Vous voyez qu'il a une corne d'abondance qui ressemble presque à une lyre. etc., etc. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que Sainte-Beuve, cette fois-ci, est magnifié. Alors pourquoi il est magnifié ? Parce que nous sommes en mai 1867 et que Sainte-Beuve, à la grande surprise de la jeunesse de France et des intellectuels, a osé, devant le Sénat, défendre à la fois les bibliothèques populaires. Et d'autre part, il a également défendu les Normaliens qui avaient osé lui dire toute son admiration dans cette affaire. Donc Sainte-Beuve en est sorti grandi auprès des journaux satiriques, et vous voyez cette évolution donc dans Le Bouffon qui est très nette. Qu'en est-il donc de la Bibliothèque nationale ? La presse satirique est très ambivalente envers la Bibliothèque nationale, tout comme la presse généraliste. Et Marie l'a rappelé tout à l'heure, il y a deux personnages finalement, oui. Il y a deux personnages autour de la Bibliothèque nationale de France. Il y a la Brouste et les travaux. Ça, c'est vu de manière très positive. On raconte sans arrêt les travaux autour de la Bibliothèque impériale. On trouve ça très bien. À l'inverse, on est très critique envers le fonctionnement de la Bibliothèque nationale, qui est présentée comme un lieu où il est impossible d'obtenir un livre, qui est fermé pendant de longues vacances, et qui a des conservateurs extrêmement désagréables, qui ne répondent pas aux questions qu'ils leur posent, etc., etc. Les réformes sont mal vécues, alors on pourrait se dire, hein, puisqu'on était aussi critique, mais les réformes sont tout aussi mal vécues, voire davantage. La salle des travailleurs est critiquée, la confection des catalogues paraît trop longue, et Jules Tachereau est constamment attaqué. Alors je voulais vous lire un texte, si j'ai 2 minutes. Oui. Alors, ça s'appelle « Les traquenards de Paris ». Voilà, c'est paru dans le Charivari en avril... en avril 1870, en avril 1867, et ça s'intitule « Conseil aux visiteurs de la future exposition ». Donc nous sommes au moment de l'exposition impériale, laquelle est censée mettre évidemment en avant tout l'effort éducatif de l'Empire. « Ce qui doit éloigner les gens sages de la bibliothèque impériale. Nous sommes entrés à la bibliothèque impériale, bon étranger, il faut y rester. Tu l'auras voulu, Georges Dandin. Tu as essuyé tes pieds pour te conformer à l'invitation qui est faite à tout visiteur par une pancarte écrite placée au-dessus du bouton de la porte de la salle de lecture. Tes pieds essuyés, le bouton tourné, tu te trouves dans des immenses salles dont l'atmosphère fait pousser sur les lèvres l'exclamation bien connue de Saint-Ville « La végétation est forte dans cette chambre ». Très forte, trop forte, vraiment. Il est merveilleux de penser que si peu d'haleine humaine suffisent à vicier à ce point l'air d'une pièce grande comme une halle. Cela viendrait-il de ce que l'amour des livres exclut l'amour de la propreté et que les bibliomanes songent plus à renouveler les paletots de cuir de leurs bouquins que de leurs propres chemises ? Alors, il continue et qu'il continue. Mais passons et n'exigeons rien de plus que ce que les honnêtes gens peuvent nous donner. Monsieur Tachereau est trop occupé sans doute de son fameux catalogue, le pendant du fameux dictionnaire de l'Académie, pour songer à de pareilles misères. Il ne vient déjà à la bibliothèque impériale que trop de lecteurs. Si l'atmosphère de la salle de lecture pouvait contribuer à en chasser les trois quarts, l'autre quart y gagnerait, et les employés aussi. Passons donc. Qu'est-ce ? Un gardien vous arrête pour vous remettre une carte imprimée, semblable à celle qu'on vous remet en entrant dans les bouillons du Val. Une bien jolie invention, cette carte. J'en félicite son inventeur. Ce n'est pas ce bon monsieur Naudet, et encore moins cet excellent monsieur Van Pratt, qui se serait jamais avisé de cela. Garde précieusement ta carte, bon étranger. Si tu avais l'imprudence de la perdre, tu ne pourrais plus sortir. Ne plus pouvoir sortir de la salle de lecture, mon ami ? Oh ! Garde ta carte et avance jusqu'au bureau placé au milieu de la salle où siègent messieurs les bibliothécaires, flanqués d'un conservateur. Etc., etc. Donc il va nous faire une description apocalyptique de toutes les mesures nécessaire pour obtenir, et non malheureusement, ne pas obtenir un livre. C'est-à-dire que le lecteur n'aura pas son livre à la suite de démarches, la fameuse carte, la fameuse demande, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un post-scriptum, et que ce post-scriptum dit « Tu remarqueras, bon étranger, que dans la salle des manuscrits, où il y a des trésors littéraires, 1000 fois plus précieux que dans la salle des imprimés, on n'exige absolument rien, ni carte d'entrée, ni bulletin, rien, rien. Tu demandes les échecs amoureux, ou la Vita Christi, ou les heures d'Agne de Bretagne, on te les donnera tout de suite. » Donc, une autre de l'éclipse à un moment clé, c'est la dernière que je vous montre, le 24 avril 1870. Alors, vous voyez qu'on a un moment clé, on est au moment du plébiscite, donc on a à la fois la critique, évidemment, de l'Empire, mais aussi de la bibliothèque. Profitons du moment où l'avons consulté la nation sur la meilleure des constitutions pour vider par la voie plébiscitaire quelques questions pendantes, les vacances de la bibliothèque impériale. Un établissement dont l'entrée peut être nécessaire tous les jours à plus de 2000 personnes, doit-il être ouvert en permanence ? Oui. Serait-il compatible avec le sens commun de laisser Paris s'éclairer à la chandelle pendant 2 mois sous le prétexte de donner des vacances aux employés de la compagnie du gaz ? Non. En admettant que l'on accorde un congé aux trois quarts des employés de la bibliothèque impériale, l'autre quart suffirait-il grandement aux besoins du service ? Oui. Conclusion, faut-il fermer tous les ans pendant 2 mois les bibliothèques ? Non. Après, j'avais une dernière illustration du bouffon en mars 1868 qui rejoint ce que nous a montré Marie et qui m'interroge énormément, ce genre de représentation, puisque vous voyez qu'on a une critique de ce qui se passe à la bibliothèque, on dit c'est trop tatillon, etc. Et à l'inverse, les représentations qu'on peut voir montrent généralement les lecteurs s'en donnant à cœur joie avec les ouvrages, hein, sans ménagement. Donc je me pose des questions sur cet aller-retour entre ces textes qui montrent vraiment une bibliothèque trop tatillonne et des images qui montrent un certain laisser-aller, des lecteurs livrés à eux-mêmes et qui sont heureux, il faut bien le dire. Hein, sur toutes ces images, on voit qu'ils sont plutôt heureux. Voilà, donc vous la voyez ici en plus grand, hein, donc vous voyez que véritablement, on fait absolument ce qu'on veut à la bibliothèque impériale. Voilà. Alors, cette illustration, comme le montrait tout à l'heure Antoine Compagnon, elle est intéressante parce qu'elle se passe donc dans le deuxième arrondissement. C'est une présentation du deuxième arrondissement et vous avez tout en haut la bourse, vous voyez. Donc, il y a les lieux fondamentaux du deuxième arrondissement. Alors, on est allé jusqu'au troisième arrondissement. On a une représentation des Archives nationales avec les petits rats, évidemment, de circonstances. Mais malheureusement, le dessinateur s'est arrêté avant d'arriver à cet arrondissement et au Collège impérial. Donc, je ne peux pas vous montrer le Collège impérial. Voilà. Alors, je voulais conclure de la façon suivante, vous l'aurez compris. La presse du Second Empire est une source très incomplète pour qui voudrait faire une histoire totale, évidemment, du Second Empire et du Collège de France et de la Bibliothèque impériale. Il ne faut pas compter sur la presse pour faire ce genre d'histoire. En revanche, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'elle renseigne en creux sur l'attachement d'une élite intellectuelle parisienne à la liberté de ses institutions et surtout à son exigence de qualité. C'est-à-dire que vous voyez tous ces petits caricaturistes, tous ces petits feuilletonistes, etc., où ces grands journalistes sont extrêmement attachés à une bibliothèque qu'ils utilisent et à un Collège de France dont ils écoutent les leçons. Et c'est l'enseignement qu'on peut tirer donc, de cette presse impériale. Je vous remercie.